Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Guillaume Seize qui est directeur de la marque chez Yum Brands. Bonjour Guillaume.
Bonjour Alexis.
Donc on est ravi de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. On va parler de nourriture, de restauration, mais de marketing aussi qui est ton domaine. Tout d'abord, Guillaume, comment tu en es arrivé à être directeur de la marque Yum?
Alors précisément, je suis directeur de la marque KFC.
KFC.
KFC appartient donc au groupe Yum, on en reparlera. J'ai rejoint KFC il y a presque 6 ans aujourd'hui. Alors moi, j'ai un parcours scolaire en marketing. J'ai été diplômé en 2010 et j'ai commencé ma carrière en agence. Donc j'ai commencé en agence qu'on appelle des agences de shopper marketing. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans pour une agence du groupe Edis Media dans des marques de grandes conso. Donc c'est là où j'ai, je pense, développé mon appétence à travailler pour des marques food, mais pas que, parce que j'ai travaillé aussi pour pas mal d'alcooliers. On faisait ce qu'on appelle des expériences consommateurs, donc un mix entre de l'événementiel et de l'expérience. Ensuite, j'ai changé d'agence pour aller dans une agence qui s'appelle The Marketing Store, où là, j'ai complètement changé de manière de travailler, parce que j'ai passé d'un modèle multi-client à un modèle mono-client. Et c'est là, au fait, où j'ai découvert la restauration rapide, parce que je travaillais pour McDonald's. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans chez The Marketing Store pour McDonald's, et mon job était en fait de concevoir et de mettre en place toutes les opérations promotionnelles, les grands jeux type Monopoly, les verres Coca, donc avec des gros enjeux de trafic, donc faire venir pendant des périodes clés, et aussi des enjeux assez créatifs, parce que du renouvellement perpétuel sur les mécaniques de jeu, sur la manière de faire.
Donc c'est lié aux promos, tout ça, c'est lié au promotionnel.
Exactement. Et en fait, c'est là où j'ai découvert l'univers de la restauration rapide, du retail, vraiment. Univers qui était passionnant, parce que vraiment des grosses machines hyper connectées, en fait, avec les tendances, avec la société. Et j'ai eu envie, en fait, d'avoir une vision peut-être plus complète d'une stratégie retail. Et c'est pour ça que j'ai basculé, en fait, chez l'annonceur, et j'ai rejoint KFC il y a maintenant 6 ans.
Et combien d'années, ces années d'agence, un peu, du TPA?
Environ 8 ans, ouais, quand même, 6, 7 ans, ouais.
Avec
beaucoup
du retail marketing, finalement,
ouais,
comme Marketing Store, qui sont des agences spécifiques, parfois, on en parle un peu moins des agences de pub, mais qui sont importantes, parce qu'elles sont sur le terrain, sur les points de vente et du drive-to-store, quoi.
Exactement, avec beaucoup de connaissances conso, savoir quelles sont les tendances en termes de, justement, lifestyle, de passion point, etc., pour pouvoir, justement, les transposer au sein du restaurant et faire du trafic avec ça.
Alors, on va parler de Yum Brands, donc qui abrite justement la marque KFC, mais pas que. Il y a Pizza Hut, il y a Taco Bell, et il y a aussi, je crois, une autre enseigne.
The Habit Burger. Ouais.
The Habit Burger, donc tout ça vient de chez l'oncle Sam, évidemment.
Exactement.
Pour les passionnés d'Amérique. Donc, comment ça s'organise sur ces marques? Je crois que KFC est quand même le vaisseau amiral en termes de marque, de driver.
Ouais, tout à fait. Alors, niveau groupe, oui, parce que donc le groupe Yum représente 25 000 restos dans le monde. Donc, c'est le plus gros groupe de restauration mondiale.
C'est énorme.
C'est énorme.
C'est numéro 1, c'est devant McDo.
Ouais, exactement. Ouais, tout à fait.
Ah oui.
Tout à fait, avec justement l'ensemble de ces marques-là. En France, donc KFC est présent depuis une trentaine d'années, et on compte aujourd'hui 330 restos. Donc on est clairement
Sur la France. Hein.
Sur la France, ouais.
Sur un plan de déploiement, comment ça s'est organisé les 10 dernières années? Une belle montée en puissance.
Une belle montée en puissance, ouais. L'année dernière, l'année 2022, a été une année record en termes d'ouverture. On a ouvert 25 restos sur l'année.
Beaucoup, ça.
Donc c'est plutôt
C'était
pas mal.
C'était l'effet sortie de Covid un petit peu ou...
C'est l'effet sortie de Covid, pas forcément, parce que Parce qu'on ne peut pas dire que le Covid a été un accélérateur pour le développement. Pour moi, c'est plus aussi une tendance et une bonne dynamique d'enseigne,
d'accord,
à la fois sur les ventes, à la fois sur la marque, qui fait que bah, aujourd'hui, on a des investisseurs qui ont aussi plus envie d'investir dans la marque et d'ouvrir des restos. Quoi.
Bon, ouais. Bah, super. Donc, justement, donc toi, aujourd'hui, tu es directeur de la marque Yum et donc beaucoup de KFC, hein, en priorité.
Que du KFC.
Donc, ouais. Kentucky Fried Chicken, pour les auditeurs, évidemment, qui le savent déjà, donc qui est marqué par la figure du célèbre colonel Sanders. Alors, est-ce que tu nous fais un petit point de storytelling et d'histoire de cette marque, on va dire, iconique aux États-Unis notamment, et puis qui arrive en France ?
Yes, alors c'est une marque qui a une vraie histoire parce que, voilà, comme tu l'as dit, c'est une marque qui a un fondateur qui est en fait qui est pas une icône.
La célèbre Barbichette.
Ouais, exactement, la Barbichette et son costume, et son costume blanc, son costume immaculé blanc.
Ah ouais.
Donc voilà, c'est une marque qui a vraiment une figure, mais qui est une vraie personne, qui a vécu au début du 20e siècle aux États-Unis, dans le Kentucky précisément. Et c'est en fait un personnage qui a eu des dizaines de vies. Quelqu'un, je pense, qui incarne vraiment la résilience,
d'accord,
qui a fait énormément de métiers. Je ne pourrais pas tous te les citer, mais jusqu'à un moment de sa carrière où il est arrivé patron d'une station-service.
D'accord.
Et en fait, remplir les réservoirs d'essence ne lui suffisait pas. Il a tout de suite eu cette logique. Il a très vite eu la logique d'expérience, de se dire comment il pouvait améliorer l'expérience dans ces stations-service pour faire rester les gens qui, à l'époque, n'avaient pas les grosses autoroutes, donc avaient besoin aussi de faire des pauses, qui roulaient très longtemps.
On est avant la guerre. On est au début
On est dans les années 25-30.
Et on est avant avant Récroc, avant McDo,
exactement,
surtout.
Et c'est en 1939 qu'il a commencé à cuisiner dans sa station-service.
À Louisville, exactement.
Et il a commencé à cuisiner dans sa station-service et il a créé cette fameuse recette de poulet frit avec 11 herbes et épices, une marinade de 11 herbes et épices toujours tenue secrète. C'est un peu comme la recette du Coca.
C'était un passionné de cuisine ou il s'est révélé comme ça en fait ?
Il a toujours cuisiné, mais il n'a jamais fait carrière dans la restauration,
d'accord,
avant ce moment-là. C'est plus
idée entrepreneuriale à la faveur du poulet. Il s'est dit, il y a quelque chose à faire, quoi.
Et vraiment, c'est ça. C'est une réflexion strate de se dire, attends, j'accueille des gens chez moi. Ils ont besoin de temps de pause, d'expérience. Qu'est-ce que je peux faire en fait pour magnifier en fait leur pause de station-service? Et donc, développement de cette recette, petit à petit, il avait aussi besoin. C'est assez intéressant.
Il est au milieu de sa vie à ce moment-là ou il est plutôt au début
Il
avait une certaine maturité.
Oui, tout à fait, parce qu'il avait déjà fait plein de jobs avant.
Okay.
Et d'ailleurs, c'est là où il a développé en fait cette fameuse cuisson qui est assez spéciale chez nous. C'est une cuisson, donc le poulet est frit, mais sous pression. Donc ce qui permet de conserver le côté juteux du poulet, mais aussi croustillant. Pourquoi il a développé ça? Parce qu'il s'est déjà rendu compte, déjà à l'époque, que les gens n'avaient pas le temps. Donc il fallait cuire le poulet assez vite.
D'accord.
Et c'est ça qui est assez dingue parce qu'en fait aujourd'hui cette technique de cuisson elle est toujours utilisée dans tous nos restos, que ce soit en France ou à l'international, pour cuire justement nos fameux filets de poulet entiers qu'on appelle les tenders.
Ok. Et donc après donc c'est un travail entrepreneurial entre le lancement de ce premier KFC et le développement de la marque, les grandes lignes qui ont fait le développement du réseau, dirais.
Il y a une période justement développement entre 1939 et 1952. 1952, c'est justement le premier resto KFC. Parce qu'évidemment, avant, il n'avait pas travaillé l'enseigne KFC. Il avait juste son petit restaurant dans sa station-service. Et 52, nous, c'est vraiment la date qu'on retient. Tu as dû le voir dans notre plateforme de communication quand on signe croustillant depuis 1952. C'est parce qu'en fait, c'est l'ouverture de ce premier restaurant. Et pour nous, c'est là le point de départ de l'histoire de KFC dans le monde.
D'accord. Et toujours, il était toujours aux manettes, colonel Sanders, à ce moment-là.
Ouais, il l'a pas été jusqu'à la fin de sa vie. Il y a eu ensuite une cession, un premier groupe d'abord, ça n'a pas toujours été chez Yum. Il y a eu une cession, et puis après, la marque est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, propriétaire du groupe Yum.
C'est un peu la même stratégie qu'il y a eu pour McDonald's, surtout Coco, la fédération de... J'imagine, tu l'as vu, le film Le Fondateur, bien sûr.
Yes, ouais, je l'ai vu.
C'était un bon film. T'as aimé ce film?
Ouais, super intéressant. Ouais.
Et là, tu penses que ça a été un petit peu la même logique pour embarquer les franchisés qu'on voit dans le film sur McDonald's?
Ouais, j'ai pas toute la coulisse de McDo, mais oui, je pense que c'est plutôt le même... Il y a des similitudes. Ouais, il y a des similitudes.
Ok, bah, intéressant. Les auditeurs, ça va les intéresser d'avoir toute cette origine. Donc, KFC finalement, est arrivé en France à quelle année à peu près ?
Il y a 30 ans.
Il y a 30 ans. Ouais. Ok, donc un peu après McDonald's. On ne va pas parler tout le temps de McDo, évidemment, dans ce podcast, mais on est forcément obligé de les citer. Mais tu penses qu'ils... Oui, un petit peu
un
après.
Un petit peu après, ouais.
Un petit peu après. Donc toi, tu es sur la marque, Guillaume, de KFC, donc la faire vivre notamment sur la France. Donc tu as plusieurs leviers clés, tu peux en parler dans ton activité. Voilà, je crois que tu as la communication, tu as aussi la com corporate, tu as la pub. Comment tout ça s'articule, en fait ?
Exactement, donc en fait, pour faire simple, moi je suis garant de la visibilité de notre marque, de sa réputation et en fait de créer de l'affinité avec les consommateurs. Donc ça se résume en fait par la communication corporate, donc les relations presse, relations avec tous les médias en général, les affaires publiques, parce qu'on est... aujourd'hui une industrie qui est très réglementée, on en reparlera sûrement quand on parlera RSE, donc toute cette communication justement pour entamer et pour accélérer cette transition, et toute la partie communication publicitaire où là je suis en charge de toutes les grandes campagnes pour justement faire partager et transposer les valeurs de l'enseigne auprès des Français avec différents leviers qui peuvent être la publicité traditionnelle, les réseaux sociaux.
D'accord. Alors avant d'arriver sur toute cette activation, c'est où on aime bien toujours refaire un peu de storytelling. Là, tu as parlé du colonel Sanders qui est une figure clé. Mais comment tu dirais que ça se distingue KFC sur l'univers de la restauration rapide finalement ? Qu'est-ce qui caractérise ? Qu'est-ce qui fait l'ADN de cette marque ?
Déjà, je suis obligé de commencer par notre produit. Mmh. On est aujourd'hui une enseigne spécialiste parce qu'on ne sert que du poulet, du poulet frit. Mmh. Qui est en fait pour le consommateur français, alors de plus en plus dans les habitudes.
Qui ne sont pas des nuggets,
qui sont donc des tenders, c'est des vrais filets de poulet entiers.
Ça donne faim quand je t'écoute.
Marinés et frits sur place. C'est aussi une des grandes différences avec pas mal d'acteurs. C'est qu'en fait, il y a un vrai travail de cuisine dans nos restaurants. C'est que le produit, il est pané sur place, ce qui fait en fait justement son croustillant inimitable.
Et c'est quand même des beaux volumes, c'est quand même nourrissant. On sait que c'est quand même nourrissant. C'est pas des petits trucs. Et ça, c'est des habitudes de consommation. Comment les Français, parce que c'est vrai que sur le papier, on peut se dire, ah oui, bah, c'est quand même très américain dans l'inspiration. Comment tu vois un peu la francisation du concept ou l'aspect qui s'adapte, tu dirais, aux habitudes de consommation des Français? Comment tu vois ça, toi?
T'as raison, ça l'est, en fait, un produit très américain à la base, mais aujourd'hui, il y a une vraie démocratisation, je dirais, du poulet frit. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu as beaucoup de restos, même de grands chefs qui travaillent le poulet frit, où avant, quand on parlait burger, c'était du bœuf. Essentiellement. Aujourd'hui, on a parlé des tenders, mais aujourd'hui, on a presque la moitié des produits vendus chez nous qui sont des burgers au poulet frit. Donc ça, en fait, c'est un vrai axe de développement et de francisation.
Qui distingue du bœuf, qui, on va dire, a peut-être un peu moins le vent en poupe.
Exactement.
On va parler des RSE d'alimentation.
Exactement, on en parlera, ouais. Et puis, il y a aussi tout le côté francisation. Nous, aujourd'hui, on est engagé dans une transition vers de l'approvisionnement de plus en plus local. On est passé l'année dernière à plus de 40%, à 40% de poulet français. La France devenant le premier pays d'approvisionnement. Et là, cette année...
C'est quelle région alors où ça produit ? Tu peux en parler un peu
Ouais, on est dans l'Ouest. On est dans l'Ouest, donc tout un axe Mayenne-Normandie. Okay. Donc là, on a plus de 500 éleveurs, alors qui ne sont pas nos éleveurs, mais en fait, on a des partenariats assez forts en fait, avec eux. Donc ils peuvent travailler pour plusieurs entreprises, mais avec les volumes de nos 300 restaurants, ils bossent quand même pas mal pour KFC. Ouais. Donc c'est D'accord. 500 éleveurs.
Donc c'est bien, vous faites vivre aussi les filières françaises de production, contrairement à ce que certaines
exactement.
Personnes pourraient penser.
Exactement, et ce chiffre tend à s'améliorer, et s'est amélioré cette année, malgré tout le contexte qu'on connaît, entre guerre, inflation... on a re-augmenté de 7% notre approvisionnement français.
Et les prix sont restés à l'équilibre ? Vous avez réussi à pas monter les prix ?
Alors, nos prix d'achat ont augmenté parce que justement l'énergie a augmenté,
tout a augmenté.
Tout a augmenté, exactement. Dans les valeurs de KFC, il y a l'accessibilité est vraiment centrale. Donc on veut rester une enseigne accessible, populaire, ouverte à tous. Les prix chez nous n'ont pas augmenté dans la même proportion que nos prix d'achat. Donc on a rogné nos marges. On a rogné, nos franchisés ont rogné
pour
sur leur marge
des clients, quoi.
Voilà, pour avoir une augmentation qui est raisonnée de l'ordre de celle de la grande distrib et qui soit acceptable pour les clients.
Les près de 300 que tu as cités tout à l'heure, c'est répartis dans toute la France, c'est ça à peu près?
On a un maillage assez, assez homogène. On a évidemment des zones de développement, mais qui sont un petit peu partout en France parce que, comme on le disait, il y a un vrai potentiel encore aujourd'hui. On a ouvert 25 restos l'année dernière. On va sûrement...
Il y a des zones où il y a un peu plus, tu dirais. Il y a Sud-France, Sud-Ouest. Il y a des endroits où il y a plus de concentration, où c'est bien réparti.
Non, c'est plutôt bien réparti. Historiquement, notre développement a été fait plutôt en périphérie. On a pas mal aujourd'hui de dynamisme en centre-ville parce que aussi notre modèle évolue. On est capable aujourd'hui d'ouvrir des restaurants dans des plus petits espaces qu'on n'était pas forcément capable de faire il y a 10 ou 20 ans. Donc en fait, c'est plus un potentiel dans ces petites surfaces de centre-ville, mais qui sont hyper intéressantes parce que c'est là où il y a pas mal de flux et qui font aussi, je reviens sur la marque justement, qui font aussi vivre la marque et connecter la marque avec les Français au quotidien.
Donc alors, j'aime bien faire un peu de pédagogie dans le podcast. Donc le modèle de la franchise, il est clé pour KFC. Tu peux en parler de qu'est-ce qu'une franchise justement?
Une franchise, en fait, c'est quelqu'un comme toi ou moi qui croit en une enseigne et qui va investir dans cette enseigne pour pouvoir l'exploiter. Donc ce sont des entrepreneurs. Aujourd'hui, nos 330 restos sont opérés par des entrepreneurs indépendants qui ont fait confiance à la marque et qui ont investi dans la construction du restaurant, le recrutement d'équipes, pour en fait aujourd'hui vendre l'offre de produits KFC.
Donc ensuite, oui, ils ont toute l'exploitation de leur propre PNL local.
Exactement.
Il y a des structures qui sont créées à chaque fois, c'est ça?
Exactement.
Il y a une structure. Par contre, l'immobilier, vous restez propriétaire des murs?
Ça dépend.
Ça dépend.
Là,
pas forcément comme la Golden Arch là-dessus.
Pas forcément.
D'accord, un modèle un peu plus hybride, on va
exactement,
dire.
Exactement, exactement. On s'adapte en fonction aussi des profils d'entrepreneurs, des sites, etc.
Donc, tu as aussi une structure franchisée qui forcément amène aussi une gestion de tous ces intérêts-là, j'imagine?
Tout à fait. En fait, nous, le siège de KFC France, on représente 100 personnes avec différentes fonctions support. Nous, on est là, c'est vrai que nos premiers clients, on a tendance souvent à le dire, c'est nos franchisés. On est là, en fait, pour soutenir nos franchisés dans l'exploitation de ces restaurants. Et on a une grosse équipe opération qui est là, en fait, pour justement les aider à opérer sur les différents niveaux.
En termes de public, donc c'est très familial, j'imagine. Tu dirais comment tu définis les publics clés de KFC? C'est beaucoup de familles, d'enfants?
On a un public qui est très large. Franchement, on a tendance, on dit parfois 7 à 77 ans, des familles très représentatives en fait, des zones où on s'implante. Donc, on a vraiment les clients des zones où on s'implante. Donc,
très grand public en tout cas. Alors, la marque, tu as parlé de relations de presse, du corpo, tu as parlé de la pub, aussi de l'online. Comment tu vois cette partie online qui aujourd'hui devient assez importante finalement côté marque? Ça, c'est le social media, le digital marketing. Comment tu vois ça en complément de un peu plus du mass media? Parce que tu dois jouer sur les deux terrains, toi, de ton côté.
Ouais, tout à fait. On a la chance de pouvoir jouer sur les deux côtés. Sur cette partie social media, c'est une partie qui est hyper intéressante et qui demande en fait énormément de connaissances.
Et de travail aussi.
Et de travail. Aujourd'hui, on a des équipes, pas mal externalisées chez nos agences, qui sont vraiment là au quotidien, experts de chacune des plateformes, pour connaître à la fois les bonnes tendances, les attentes des consommateurs pour être légitimes et créer justement ce lien affectif, parce que sur les réseaux sociaux, on se parle beaucoup en fait d'entertainment et de liens avec nos consos. Donc, c'est des plateformes qui évoluent hyper vite. Ça demande beaucoup d'efforts et de justesse en fait dans le ton, surtout quand on est une marque.
Donc tu as du Insta, du TikTok, tu es partout, c'est sur tous les social, tous les plateformes.
Ouais, on est présent partout. Beaucoup d'énergie mise en ce moment sur TikTok parce que
Tu le boycottes pas toi, tu fais partie de ceux qui ne le boycottent pas. Il est clé pour les jeunes quoi.
Moi j'ai tendance à me dire que on doit en fait être là où les jeunes le sont et réussir à être légitime sur chacune des plateformes. Et aujourd'hui, c'est vrai que TikTok, avec ses codes qui sont hyper à part, où tout est incarné, a un petit peu nous a forcé à changer la manière de créer nos contenus.
Avec la vidéo, redéfini de la modernité. Donc ce Chinese bashing, pour toi, tu trouves c'est un peu hors sujet toi. Enfin là, je sors du côté marketeur, plus ton avis perso.
On suit le sujet. On suit le sujet parce que pour le coup, on a à cœur de protéger aussi nos consommateurs. Maintenant, on suit en fait les directives du gouvernement qui suit le sujet de très près. Mmh. Et tant qu'aujourd'hui, il y a une bonne régulation qui est faite sur les usages et une transparence sur les contenus, on est dessus. Ouais.
Donc tu disais, en termes d'audience sur les abonnés, c'est quoi ? Ça peut être des centaines de milliers, du million ? Sur quel type de communauté ?
On a des très grosses communautés. Donc historiquement, sur Facebook, on n'est pas loin d'un 1,5 million. Et après, on a des communautés en forte croissance sur du TikTok. On est en centaines de milliers. Insta, pas loin. Et Twitter, où là aussi un réseau hyper intéressant où on travaille en fait justement cet élargissement de communauté en ce moment. Ouais.
Tout ça, tu le vois toi de ton œil de pro sur le marketing, tu vois ça, quoi, tu l'as dit un petit peu, c'est une manière de garder une conversation plus proche, c'est une manière aussi d'un petit peu ancrer la notoriété de la marque, est-ce que ça fait vendre un peu moins, comment tu vois finalement l'intérêt du social pour une marque comme la tienne ?
On a vraiment cette logique de connexion avec notre cible. On a moins de logique publicitaire sur les réseaux conversationnels type Twitter, TikTok, Insta. Facebook, c'est un peu à part. Aujourd'hui, on le considère vraiment comme un média. On n'est pas là pour vraiment engager de conversation avec les communautés. On fait beaucoup de paid sur Facebook où là, c'est vraiment du relais de campagne.
Okay.
Par contre, ouais, Twitter, TikTok, on est vraiment là pour... être présent dans le quotidien des jeunes, parce que pour le coup là les audiences sont quand même beaucoup plus jeunes que notre cible restaurant, donc on a évidemment un ton de voix qui est adapté sur TikTok, sur Twitter, sur Insta, qui n'est évidemment pas le même que dans nos grandes campagnes publicitaires où on est un petit peu plus mainstream.
Et là, plus question de curiosité, parce que je suis plus côté agence, et donc c'est d'avoir ton avis là-dessus. Pour piloter, qu'est-ce que c'est toi finalement les trucs les plus clés, tu trouves, pour piloter du social ? C'est compréhension de la marque, c'est pilotage, c'est la qualité de la création de contenu, la gestion de tout ça ? Qu'est-ce qui finalement, il y a plein de croix qu'il faut cocher ?
Sur le social, avant tout, donc nous, en fait, on travaille avec Havas Paris sur toute la création.
Petite agence qui démarre.
Petite agence qui démarre.
Jacques Séguéla, on l'embrasse.
Exactement. Je n'ai pas ce niveau de proximité, mais je le salue en tout cas.
Petite blague.
Non, mais c'est marrant parce que tu fais la blague petite agence qui débute. Et je pense que la clé, c'est aussi d'avoir suffisamment de ressources au sein de ton agence. Et sur la question du social, c'est des gens qui sont déjà capables de comprendre en fait ta plateforme de marque. Ça part de là.
Oui.
Si tu veux être bon...
Compréhension
de strat de ta plateforme de marque. Mmh. Et ensuite, ça va être justement l'expertise par réseau. Et comment, en fait, j'adapte ma plateforme de marque avec un ton de voix, avec des sujets, avec des passion points qui, justement, font sens sur ces plateformes.
Et comment tu opères ça ? Tu as quoi ? Un comité mensuel par mois ? Parce que toi, t'es très pris. Donc, comment tu gères ça au mieux, toi ?
Alors, sur le social, on a des réunions hebdo.
Hebdo.
Parce que, pareil, le social, aujourd'hui...
C'est du temps réel, quoi.
C'est du temps réel. Il y a toutes les campagnes qui sont relayées d'une manière ou d'une autre sur le social. Et en plus de ces campagnes, il y a tous les contenus vraiment organiques, social, qui vont aussi faire notre ligne édito. Donc il y a des réunions hebdo et après on a des points plus mensuels où là on fait le point sur les grandes campagnes à venir justement pour avoir un maximum d'anticipation sur ce qui peut l'être, pour laisser à l'agence un maximum de flexibilité sur le rebond sur l'actualité, des choses en fait qui vont se passer dans la vraie vie et qu'on peut... Sur lesquels on peut rebondir, on est légitime de rebondir. Exactement.
Ce qui est intéressant de ce qu'on sent de ce que tu fais vachement, qui est bien, c'est que tu arrives à bien matcher entre ta com globale et le social qui est l'écho. Donc il y a vraiment un mix, quoi. On sent dans ce que tu dis.
On essaye, en fait, et on essaye surtout d'adapter cette com justement au ton du social. Là où il y a encore quelques années et beaucoup d'annonceurs avaient cette logique-là, où tu prenais ton asset publicitaire, tu le mettais au format d'un Facebook, d'un Instagram, tu le mettais sur la plateforme. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'en termes d'engagement, ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas mettre le même asset en télé qu'aujourd'hui sur TikTok ou sur Insta. Donc, tu es obligé à partir de là, à partir de cette idée, à partir de ce film ou à partir de Sprint, en fait, de venir le transposer et de l'adapter au code de la plateforme sur laquelle tu vas le mettre.
Donc, ton de voix, tu l'as dit, et ligne édito, c'est vraiment des points clés, quoi. Exactement. De développer toute ta ligne édito. Les chartes, tout ça, c'est quand même très brandé. Tu dirais, oui, il y a un peu de latitude sur tous les assets de KFC par rapport ensuite à latitude pour déployer.
On a une charte qui est quand même très identifiable.
Fameux rouge.
Ouais, ce fameux rouge. On a des codants, ces strips, ces trois strips, évidemment le logo, le colonel, les trois lettres KFC. Donc c'est quand même assez charté, même si on peut se permettre en fait pas mal d'ouvertures. Je pense notamment à un cas très particulier comme le Veggie. Aujourd'hui, c'est un cas, même au niveau du global, du groupe, quand les premiers marchés ont commencé à référencer du produit végétarien dans leur gamme, eh ben, en fait, on est tous passés au vert, ce qui était en fait une couleur inconnue dans l'histoire de la marque.
T'as le vert, tout le monde s'y est mis. Hein.
Et en fait, pour parler de veggie, c'est vrai que ça fait plus de sens. Et aujourd'hui, voilà, c'est aussi l'intelligence intégré, d'une marque de savoir intégrer des nouveaux codants. Et aujourd'hui, on arrive à être très bien reconnu. Même quand on parle de veggie.
Finalement, le social, il impose presque sa charte spécifique à un moment. Parce que c'est des contenus, c'est des formats qui sont un peu différents d'une charte classique.
D'ailleurs, on en a une charte qui est un peu plus spécifique, qui est toujours, on va dire, cohérente avec la charte globale. Mais vu que tu as une multiplicité de contenus sur le social que tu n'as pas forcément en publicité.
Ah oui, la vidéo, le content, le snack.
Tu as besoin d'avoir une charte qui est peut-être plus riche, qui est peut-être plus affinitaire aussi, plus 15-25. Donc il y a des contenus au premier coup d'œil, on peut déceler si c'est du social ou si c'est du média traditionnel.
Alors on arrive dans la dernière partie du podcast. Alors je sais que tu es très sur les passion points. Moi aussi je suis un peu de cette école, parce que je t'avoue que les plus grands marketeurs que j'ai reçus sont toujours sur les passion points, hein. Le patron de la marque Pepsi Monde que j'avais interviewé au MIP, passion point. Red Bull, passion point. Donc c'est Samsung. J'avais fait tout le social media de Samsung. Donc c'est intéressant parce que souvent ce qu'on se dit, c'est que les centres d'intérêt intéressent souvent plus les gens, malheureusement, que les marques elles-mêmes. Donc je crois que toi tu as une histoire qui est assez connecté avec la musique, le foot, le lifestyle. Tu peux en parler un petit peu.
La musique, c'est vraiment un passion point assez deep en fait dans l'ADN de KFC. Surtout le hip-hop en fait. KFC a été cité et est toujours cité dans énormément de chansons. Et d'ailleurs, ça a été l'objet d'une super activation. Je dis super parce que c'est nous qui l'avons faite avec nos partenaires, où justement on a rendu hommage à tous ces artistes qui avaient cité KFC dans leur chansons. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai lien. En plus, c'est vrai que par rapport à une cible de 15-25...
Tu peux citer des artistes, un ou deux artistes de hip-hop
Écoute, j'en suis deux. Kanye West dans une de ses chansons. On a Orelsan qui nous avait cité aussi dans une de ses chansons. Donc... Ce qui est assez logique, parce qu'on est dans la vie des
concerts. Mais sans que vous alliez les chercher, c'est d'eux-mêmes, ils ont fait une attribution.
Pour le coup, je pense qu'il n'y a pas encore de marque assez puissante pour pouvoir rentrer dans l'écriture de
chansons.
Quand
il y a ça, c'est Royal Aubard, j'ai envie de dire. Il n'y a pas mieux que des artistes qui finalement te citent spontanément, comme tu dis, qu'ils aiment en fait.
Exactement,
c'est ça.
Mais au final, ça veut dire que tu es une marque qui est légitime,
love brand,
une love brand. Et que tu fais du bon boulot pour justement travailler cette affinité avec la cible.
Donc Orelsan va régulièrement au KFC. Ça, c'était une blague.
Je ne sais pas.
On ne sait pas, peut-être avec ses enfants ou pas. Donc ça, ok. Tu as le foot et le lifestyle.
Le foot, c'est une vraie particularité française parce qu'on est partenaire de la Fédération française de foot depuis 2014. Mmh. Et c'est un partenariat en fait qui a justement, à l'époque, amené la marque à se franciser et à travailler sa notoriété il y a 10 ans. KFC, ça n'avait pas du tout la même notoriété qu'aujourd'hui, et en s'associant à la FFF, ça nous a permis déjà médiatiquement de rentrer dans la cour des grandes marques, d'avoir en fait ce petit supplément de visibilité qu'on n'avait pas forcément parce qu'on était moins visible en médias. Et aujourd'hui, on va dire que cet enjeu de notoriété, on l'a moins parce que ça y est, on est une marque maintenant très, très, très connue et reconnue sur notre industrie. Par contre, en fait, on se sert vraiment de ce partenariat avec la FFF pour travailler notre discours sur l'élevage français, rendre hommage aux éleveurs, tout ce travail qu'on peut faire au sein de l'économie française, au local.
Et il y a le côté là, alors je crois que tu as des collabs aussi avec la mode qui ont été mises en place, où tu parlais de collabs en off.
On aime bien en fait réfléchir à la manière dont on peut sortir KFC de son rôle de restaurant et de se dire, voilà, si on veut être affinitaire avec notre cible, il faut qu'on arrive à émerger et sortir
faire des ponts avec d'autres univers.
Il y a une histoire qui ressort chaque année au moment de Noël, c'est sur la fame de KFC au Japon. Au moment de Noël, parce que voilà, il y a une tradition qui veut que
il y a le poulet de Noël.
Ouais, exactement. Et c'est une histoire qui est liée aux expatriés qui cherchaient en fait des repas de Noël là où il n'y avait pas forcément foie gras, de dinde, etc. Et il y a eu un petit peu une destination refuge avec le KFC. Mais tous les ans, il y a des médias qui reprennent cette tendance-là. Et cette année,
au Japon, c'est parti du Japon.
C'est parti du Japon, mais en fait, ça fait écho aussi en France. Et tous les ans, au moment de Noël, il y a des médias qui ressortent cette histoire de tradition de Noël au Japon. Et cette année, en fait, on a voulu faire quelque chose avec cette tradition. Et on a fait une collab avec une marque de fringues parisienne qui s'appelle Talister, avec une grosse connotation japonaise. Donc, ils ont des designers qui travaillent en fait des kivijoles super modernes avec une touche japonaise. Et pour rendre hommage, justement, pour faire écho à cette tradition, on a sorti une série de fringues, donc du hoodie, du t-shirt, avec un design où le colonel Sanders, toutes les assets de KFC iconiques.
Un peu
avec cette patte japonaise pour justement rendre hommage. Et c'était un petit peu présenté comme le cadeau de Noël ultime.
Ça vous permet aussi d'aller dans d'autres univers, de toucher d'autres publics.
Exactement, avec justement, comme je te le disais tout à l'heure, une logique un peu moins publicitaire, un petit peu plus de brand content pour justement nourrir ces discussions et cette affinité.
Quels exemples tu trouves marquants, toi, sur tout ce qui est cette tendance brand entertainment et de nouveaux formats, de nouvelles collabs? Qu'est-ce que tu trouves qui t'a marqué? Ça peut être dans d'autres univers que la restauration, d'ailleurs.
J'ai vu un truc ce matin qui m'a bluffé. C'est une collab qui vient juste de sortir, je crois, entre Lacoste et Netflix.
On a parlé dans l'équipe, effectivement. Ça consistait en quoi? Redis-moi peu le concept.
J'ai pas digué encore vraiment toute l'idée. J'ai l'impression qu'en fait, Lacoste va sortir une série de textiles, de t-shirts, polos, je ne sais quoi, avec des logos Lacoste redesignés avec des séries qui ont cartonné sur Netflix.
D'accord, un peu du co-branding.
Et je trouve que, tu vois, je sais pas si derrière il va y avoir d'autres activations, etc., mais tu tires un fil, tu vois, d'entertainment pour
C'est intéressant parce qu'on a accueilli la semaine dernière Nathalie Chouraki qui était spécifiquement sur le sujet de la diversification et de comment réutiliser comme tu dis, d'univers de séries, de Marvel, de studios, et de le réincorporer dans des marques. Je trouve ça assez moderne. Ça a toujours un peu du licensing réinventé. C'est assez intéressant. Ça fait croiser des publics, des univers. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Les marques, t'y crois? Est-ce que les marques interviennent, pourquoi pas, dans la jeunesse de séries, de longs-métrages et de projets plus un pur entertainment? Je ne sais pas si tu as vu des exemples. Je sais que Lego, je ne sais pas si tu avais vu, avait monté un long-métrage.
Ouais.
Pernod Ricard avait fait une série de courts qui était diffusée au Festival de Cannes. Est-ce que tu crois que les marques peuvent jouer leur rôle, finalement, dans ce secteur de l'entertainment?
Je pense que ça peut intéresser quand tu vois des grosses success stories en fait de marques. Je vois pas pourquoi en fait elles pourraient pas avoir aussi leur visibilité. J'ai vu récemment sur Netflix The Playlist sur l'histoire de Spotify.
Oui, qui était très bien.
C'est l'histoire d'une marque transposée dans un format mi-fiction, mi-documentaire. Au final, alors, c'est peut-être parce que aussi. On est dans le marketing et ça nous passionne, mais le format est hyper, hyper cool.
Bon, bah, nous, on te montre le biopic du colonel Sanders. On est partant. Hein,
ça. Allez.
On va convaincre les US. Quoi.
Let's go.
Il est où le siège? Il est à Louisville?
Ouais, le siège de KFC US est à Louisville et le siège du groupe est dans le Texas.
T'es allé à Louisville?
Non,
déjà,
malheureusement. Je suis allé au siège du groupe au Texas, mais. Mais
tu
pas,
connais moins
pas
cette
Louisville.
Partie des États-Unis.
Ouais.
D'accord. T'as fait plus côte est, côte ouest un peu.
Ouais, ouais, ouais.
Alors on arrive avant d'arriver sur le final, petit mot sur le RSE parce qu'on t'en a un petit peu parlé sur la production locale, mais à quel point forcément une marque comme KFC, elle est en première ligne avec tout ce qui se passe sur l'environnement. Comment tu vois ce cliquet qui est en train d'être fait pour votre marque en fait?
Bah la RSE, c'est au sens large, c'est quand même quelque chose qui est dans la vision stratégique de l'enseigne depuis pas mal d'années. Ça a commencé justement par l'approvisionnement local, quelque chose qui n'est pas nouveau hein, pour nous. Mmh. Ça fait une dizaine d'années qu'on développe cet approvisionnement local. On travaille aussi beaucoup sur la réduction de nos emballages. Aujourd'hui, il y a une nouvelle, il y a une loi qui nous oblige à...
Donc plus de plastique, c'est
vraiment... Alors le plastique, ça fait maintenant quelques années. Donc ça, on a été un des premiers acteurs à transitionner
il
vers...
Il n'y a plus les couvercles aussi comme...
Zéro de plastique à usage unique. Ouais. Plus les couvercles, justement, en plastique. On est passé sur d'autres matériaux plus réutilisables. Aujourd'hui, là, le gros enjeu, c'est le déploiement de la vaisselle réutilisable sur la consommation sur place, donc qui est un gros enjeu opérationnel pour nous, mais qui pour le coup apporte beaucoup en termes de RSE. Il y a le sujet de l'empreinte carbone qui est un vrai sujet que le groupe a pris à bras le corps il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup plus de connaissances sur nos émissions de CO2, sur la manière en fait de réduire ces émissions pour pouvoir justement s'améliorer là-dessus.
Donc un vrai shift stratégique et qui caractérise la boîte. Quoi.
Et un shift qui est intégré en fait dans tous les départements de l'entreprise, que ce soit le marketing, aussi la construction des restaurants, mais aussi les RH. Voilà. Donc
bon,
c'est...
super, écoute, hein. Belle initiative. Et alors on arrive toute fin du podcast. Alors ça c'est la question que je pose souvent aux invités, enfin même tout le temps d'ailleurs. C'est les tes goûts personnels en matière de création. Donc ça peut être film, ciné, série, BD, pièces de théâtre, expo. Ça peut être récent ou de tout temps, des œuvres qui t'ont marqué, toi.
Non, mais pour rester dans la pub, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les pubs assez sensationnelles. Je dirais que les grosses productions publicitaires. On m'a récemment partagé une pub. Je sais plus quelle agence l'a fait, mais pour les AirPods, où je trouve ça hyper bluffant dans la manière de mettre en scène. Mettre en scène cette pub, je crois que la prod c'est Megaforce qui a fait ça.
Donc c'est pour Apple ?
C'est pour Apple, ouais. Et en fait, c'est pour vendre les AirPods Pro qui te coupent du bruit extérieur.
C'est US ou français ?
C'est pas France. Et en fait, t'as tout un monde qui va être en lévitation.
C'est du Inception un peu.
Ouais. Donc j'aime bien en fait toutes ces pubs assez.
Oui, conceptuelles. Assez ou un peu comme celle de Levi's qui avait marqué avec les murs.
Magnifique.
Celle-là, elle a fait date du couple qui traversait les murs. C'est vrai que de temps en temps il y a des pépites en pub, pas tout le temps d'ailleurs, parce qu'on trouve parfois par contre je trouve que le level de prod a augmenté, mais on cherche souvent l'idée où tu te dis inédite, qui souvent visuelle d'ailleurs.
Exactement.
Parce qu'il y a eu des Gondry, il y a eu des grands cinéastes aussi qui sont attaqués à tout ça. T'as pensé quoi de tous les trucs avec Dujardin ou Brad Pitt de Boursorama qui était un peu... T'as trouvé quoi ça?
Boursorama, c'est intéressant parce qu'ils suivent en fait une vraie ligne directrice depuis pas mal d'années.
Sur ce décalage.
Ouais, sur ce décalage. À titre perso, j'ai trouvé... j'ai préféré les époques Brad Pitt, Mike Tyson que Dujardin.
Oui.
Brad Pitt, je trouvais que c'était quand même... hyper fort.
Oui, fallait déjà choper puis, Brad, j'ai envie de dire. Hein.
Et puis la signature, en fait, le fait de dire qu'on n'a pas besoin de lui pour promouvoir cette banque, c'est tellement immédiat et simple, en fait, dans la compréhension que tu as juste envie de plonger et de te dire,
c'est
la banque qu'il me faut. Quoi.
Même si, en fait, ils avaient besoin de lui.
Même si, en fait, ils avaient peut-être un peu besoin de lui. Mais...
Et par rapport à Nespresso Wattels avec Clooney, qui a été quand même une saga qui a marqué, qui est toujours active d'ailleurs. Hein.
Toujours, maintenant il a des amis, je crois. Ouais. Maintenant il y a Jean Dujardin qui l'a rejoint, Camille Cotin qui l'a rejoint. Hyper fort en fait pour installer une marque.
Il faut
justement
le faire de tenir 10 ans sur le sujet, mais parce qu'il y avait.
Mais très cinématographique. Je pense que là on s'éloigne vraiment de la pub
classique.
Quand
et
tu
on
vois
va à l'entertainment.
Les spots Nespresso, les premiers en fait qui utilisent George Clooney. C'est du vraiment court-court-métrage. Et,
Je sais, j'avais eu la chance d'assister à une des premières réalisées par, d'ailleurs, je vais retrouver. En tout cas, il y avait Camille Abel. C'était avec, juste après Michel Gondry, une des premiers épisodes tournés en 2010. Et d'ailleurs, il veut spécifiquement tourner à Milan parce que ça lui permet d'être assez proche. Et d'ailleurs, les films sont diffusés uniquement pas aux États-Unis et pas en Italie, ce sont ces deux pays de résidence. D'accord. Mais la France est un pays clé. Oui, c'est vrai que ça a été un exemple quand même d'endorsement, comme on dirait, de personnalité. Donc la pub, c'est plutôt, tu citerais la pub, pas les BD, séries, t'as pas un film même qui t'a marqué ou...
Écoute, c'est ciné, alors j'y vais de moins en moins, j'essaie d'être...
comme beaucoup malheureusement.
J'essaie d'être très choiceful en fait quand je vais au ciné, de me dire voilà, je veux pas me louper.
Oui.
La dernière fois je me suis pas loupé, je suis allé voir Babylone.
Ah oui, t'as aimé le film de Damien Chazelle.
Ouais, j'ai pris vraiment une claque du début à la fin.
Oui.
Alors on a beaucoup entendu parler de certains trouver des longueurs, etc. Oui. Moi, je me suis vraiment immergé, j'ai été pris dans l'histoire.
En tout cas, il y a de la mise en scène derrière, on va dire.
Ouais, exactement. Je ne suis pas assez expert pour dire si on aurait dû couper 15-20 minutes.
Tu as préféré Babylone que La La Land ? Parce que moi, j'ai adoré La La Land.
Ouais, moi, ça me parle plus.
T'es plus Babylone, toi.
Ouais, j'ai plus Babylone. Et puis, en plus, il y a cette dimension très pédagogique de... on vous raconte l'histoire du cinéma.
Le contexte d'Hollywood et du parlant, quoi.
Hyper.
C'était intéressant. Et puis, une actrice exceptionnelle, quand même. Qui, je trouve, Margot Robbie a quand même... dépasser Brad et tout le monde, comme dans Once Upon a Time in Hollywood.
Ouais.
J'ai trouvé que cette actrice est quand même, elle prend la lumière, ça c'est clair. Toute dernière question, c'est la question du conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans le marketing. Ça peut être dans une enseigne de restauration. Voilà, de toi, tes apprentissages que tu as envie de transmettre.
Un conseil, écoute, je pense que c'est vraiment toujours de faire preuve de curiosité, mais je pense que c'est pas forcément un conseil qui doit s'appliquer que aux jeunes aujourd'hui. Oui, tu vois, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux. Par exemple, moi, je suis plus de cette génération-là, mais je reste très curieux sur ce qui se passe sur TikTok et autres. Donc, je pense que c'est ça, c'est de se dire, profitez de vos stages pour justement essayer de vous charger un maximum en expérience. D'aller discuter avec les plus anciens de la boîte, quel que soit le département, la fonction, et puis rester hyper curieux sur ce qui se fait en marketing, regarder des pubs, essayer de les comprendre, demandez-vous quels sont les objectifs derrière cela. Voilà, rester hyper curieux, hyper ouvert tout au long de sa carrière.
Bon, super. Stay hungry, stay foolish, comme dirait Steve Jobs. Écoute, en tout cas, un grand merci, Guillaume. C'était un plaisir de t'avoir et je pense que les auditeurs vont se régaler de toute ton intervention. Merci beaucoup à toi.
Merci, Alexis.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.